Bonjour Anne et merci. En direct, en effet, de la cour du musée Calvet à Avignon à 12h45, nous recevrons deux artistes qui sont programmés dans la partie jeune public du festival, Arnaud Meunier et Thierry Thionnang. Puis en deuxième partie d'émission, nous tirerons le portrait de la metteur en scène Madeleine Louarn qui crée Ludwig, un roi sur la lune. Mais tout de suite, il est 12h30 et c'est l'heure du journal présenté par Antoine Mercier.
Bonjour à tous. Les surprises de Theresa May, la nouvelle chef du gouvernement britannique, confie les affaires étrangères au meneur des pro-Brexit, Boris Johnson, et elle crée un ministère entièrement dédié à la sortie du pays de l'Union européenne. Précision d'Annabelle Grelier dans un instant, commentaire de la chercheuse Agnès Alexandre Collier. La sortie de la Grande-Bretagne de l'Union pourrait-elle susciter une nouvelle initiative en matière de défense européenne? La France et l'Allemagne, en tout cas, expriment leur souhait de bâtir une coopération européenne plus étroite en la matière. Avec Bruno Cadenne. Une agence liée à l'État islamique annonce la mort de l'un de ses commandants les plus en vue, Omar al-Shishani, dit Omar le Tchétchène. Précision de Nabila Hamel. Et puis en France, le cas Macron agite le gouvernement. Pas de ménage à trois à la tête de l'État, déclare ce matin le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. François Hollande s'exprime dans moins d'une demi-heure maintenant à la télévision, suivi de Stéphane Robert. Theresa May tente donc de refaire l'unité de la Grande-Bretagne, de restaurer la confiance et pour relever le défi de la séparation avec l'Union européenne, elle a donc nommé Boris Johnson, c'est le chef des pro-Brexit, au ministère des Affaires étrangères, tout en lui retirant le dossier des négociations avec Bruxelles qui dépendront donc d'un ministère ad hoc dirigé par David Davis, un ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes. On est en ligne avec Annabelle Grelier. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors Theresa May attend de ce tandem diplomatique qu'il opère un divorce aux meilleures conditions pour la Grande-Bretagne.
Oui, un tandem qui ce matin, même aux yeux des journalistes britanniques, paraît un peu surprenant. Boris Johnson, surtout au Foreign Office, lui qui ne loupe jamais un commentaire déplacé ou un dérapage, excessif jusqu'à l'outrance, tout ça ne rime pas vraiment avec l'art de la diplomatie, relève bon nombre d'éditorialistes. Au moins, dit le Guardian, il passera son temps dans les avions, ce qui sous-entend que c'est finalement la meilleure façon de l'éloigner. De toute façon, pour négocier le Brexit, les Européens auront plus affaire à David Davis, pro-Brexit, lui aussi, mais dans un style plus sobre, bien que tout aussi déterminé. Il connaît son sujet, il était l'ancien ministre aux Affaires européennes de John Major. Il avait perdu en 2005 face à David Cameron pour la direction du Parti conservateur. À 67 ans, le voilà de retour sur le devant de la scène. Pour le moment, le nouveau Premier ministre, Theresa May, a essentiellement nommé des Brexiteurs ou des eurosceptiques au poste clé de son gouvernement. C'est donc un signal fort qu'elle envoie à la fois à son parti, qui s'est clairement déchiré pendant la campagne référendaire, à son pays, elle confirme son engagement à respecter le résultat des urnes, et enfin à l'Europe également. Les négociations s'annoncent âpres, mais n'avait-elle pas promis qu'elle obtiendrait le meilleur deal pour le Royaume-Uni, Antoine?
Annabelle Grelier, merci beaucoup en direct de Londres. On est en ligne maintenant avec Agnès Alexandre Collier, professeure à l'Université de Bourgogne. Bonjour madame.
Bonjour.
Les interrogations se portent, on vient de l'entendre ce matin, sur la personnalité de Boris Johnson, qu'on dit donc assez peu diplomate, effectivement. On a pu citer certaines de ses déclarations sur certains dirigeants, d'ailleurs, du monde. Quelle est sa vision, selon vous, de la place de la Grande-Bretagne dans la communauté internationale?
Alors, la vision qu'il a, et celle, bien sûr, qu'il a défendue pendant la campagne, à partir du moment où il a fait campagne pour le Brexit, c'est-à-dire essentiellement axée sur la volonté de rester dans le marché intérieur et de limiter l'immigration en promouvant un système à points, en fait. Donc, ce sont deux aspects qu'il a répétés.
C'est-à-dire un système à points, c'est-à-dire?
Un système à points de quotas, à l'image de l'Australie, je crois, qui permettrait de mieux réguler les flux migratoires. Donc ce sont les deux aspects qui ont été avancés tout au long de la campagne, aussi bien par Johnson d'ailleurs que par Nigel Farage. Voilà, il va essayer certainement d'avancer dans ce sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nomination de Johnson, finalement, n'est pas si absurde. Alors bien sûr, elle suscite tout un certain nombre de réactions, mais la promotion de Johnson à un poste aussi important est aussi une stratégie pour essayer de le remettre dans le rang. Et puis, il faut essayer aussi peut-être d'élargir la focale à l'ensemble du gouvernement, puisque on voit bien l'équilibre qui a été atteint avec aux deux postes clés, Theresa May et Philip Hammond, ministre des Finances et partisans du Remain tous les deux, et aux deux postes que sont le ministère des affaires étrangères et des affaires européennes, deux partisans du Brexit. Donc il y a une volonté stratégique à la fois de rassurer la population et les marchés, et en même temps de signaler aux partenaires européens que les négociations s'engageront en fait dans le respect quand même du verdict populaire, donc pour le Brexit.
Justement, donc le ministre en charge du Brexit, David Davis, va s'efforcer de garder un accès au marché unique européen tout en obtenant le droit de restreindre la liberté de circulation de certains salariés venus d'autres pays. Alors, dans un article qui a été publié en début de semaine, il affirmait « Une fois que les pays européens auront réalisé que nous n'allons pas transiger sur le contrôle de nos frontières, ils vont vouloir discuter dans leur intérêt. Est-ce que Londres peut obtenir finalement l'impossible, cette contradiction d'être à la fois ouvert sur l'Europe tout en fermant ses frontières ?»
C'est tout l'enjeu des négociations. Je crois que là, c'est une affirmation qui relève un peu de la méthode Coué, c'est-à-dire poser ses pions pour essayer de faire en sorte que les partenaires européens entendent les revendications britanniques. Je pense que c'est dans ce sens-là que les négociations vont être conduites. Il a aussi dit, David Davis, je crois, que l'ouverture des négociations ne pourrait se faire que à la fin de l'année. Donc il n'y a pas non plus un sentiment d'urgence comme on a pu le dire ces derniers temps avec la nomination prématurée de Theresa May. Mais il y a peut-être aussi une volonté de pragmatisme et de faire les choses étape par étape.
Merci beaucoup Agnès-Alexandre Collier. Je rappelle le titre de votre dernier livre sur les conservateurs britanniques, Les habits neufs de David Cameron, publié aux presses de Sciences Po. A signaler encore que le président du Parlement européen, Martin Schulz, critique la composition de ce gouvernement britannique qui, selon lui, vise surtout à satisfaire la cohésion interne du parti conservateur et se concentre moins sur l'avenir du pays. En tout cas, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union pourrait peut-être autoriser une nouvelle initiative en matière de défense européenne, puisque pratiquement au même moment hier, l'Allemagne et la France exprimaient le souhait de bâtir cette coopération européenne plus étroite en matière de défense. François Hollande disait vouloir faciliter les engagements de l'Union européenne à l'extérieur de ses frontières et aussi conjurer les menaces terroristes. Bruno Cadenne, bonjour.
Bonjour Antoine.
Et un peu plus tôt dans la journée, c'était la ministre allemande de la Défense qui présentait un livre blanc et qui suggérait la construction d'un QG européen civilo-militaire d'où pourraient être déployées des missions de l'Union européenne. Est-ce que tout cela pourrait donner quelque chose concrètement.
La ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, a été claire. C'est la Grande-Bretagne qui, par le passé, paralysait toute tentative de créer une Europe de la Défense. Les Britanniques partis, le couple franco-allemand tente donc de relancer le processus. La France a plusieurs objectifs, renforcer la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la coopération dans l'industrie européenne de l'armement. L'Allemagne semble désormais en capacité de participer à ces projets, car elle a transformé sa doctrine de défense. Son nouveau livre blanc présenté cette semaine constate que la donne a changé en Europe avec une Russie qui remet ouvertement en question l'ordre de paix européen. Berlin est donc prêt à s'engager plus et à mettre plus de moyens. La France aimerait d'ailleurs que les Européens participent au financement de cette nouvelle sécurité continentale en créant par exemple un fonds européen de la défense. Lors du sommet de l'OTAN à Varsovie, l'Union européenne s'est engagée à coopérer avec l'Alliance Atlantique dans des domaines décisifs comme la cybersécurité, la lutte contre les guerres hybrides, sous-entendu par exemple ce qui se passe en Ukraine, ou la coopération maritime en ce qui concerne la crise des migrants. Les pays d'Europe de l'Est inquiets du Brexit sont également intéressés par une relance de cette Europe de la défense. Cependant, les plus anciens se rappellent que c'est la France qui l'a tué dans l'œuf en 1954, lorsque l'Assemblée nationale a voté contre la communauté européenne de défense.
Bruno Cadenne, merci. La Commission européenne lance une nouvelle offensive contre Google pour abus de position dominante. Il se confirme par ailleurs que le géant américain de l'Internet continue à ne payer que très partiellement ses impôts en France. Moins de 7 millions d'euros pour l'année dernière au titre de l'impôt sur les sociétés. C'est un montant, Hakim Kasmi, qui reste marginal au regard de l'activité réelle du groupe dans le pays.
Et oui Antoine, même si Google a payé l'année dernière 30% d'un plus qu'en 2014, eh bien le géant du net est bien loin du compte par rapport aux bénéfices qu'il engrange. Selon l'observatoire de l'IPUB, eh bien les revenus générés par la publicité grâce notamment à ses moteurs de recherche qui ont une situation quasi monopolistique domestiques représenterait en fait un marché de 1,7 milliard d'euros. Une situation que Bercy et la justice française suivent de très près. Google France est la cible en fait d'un redressement fiscal et d'une enquête de la part du parquet national pour son activité sur les 10 dernières années. Le fisc réclamerait lui en fait 1,6 milliard d'euros à Google. Et en mai d'ailleurs, on a eu une opération spectaculaire de la part des agents du fisc dans les locaux de la filiale française, idem en Allemagne il y a quelques jours. Sa filiale française qui justement, elle, se justifie en expliquant qu'elle n'exerce en fait dans notre pays qu'une activité de conseil, de marketing, d'ingénierie pour sa maison mère basée en Irlande. L'Irlande, qui comme pour de nombreuses multinationales, est devenue en fait incontournable dans l'exonération fiscale. C'est un Eldorado, puisqu'avec seulement 12,5% d'imposition sur les sociétés, elle offre le taux le plus bas d'Europe à ce niveau. Résultat, les grandes entreprises internationales s'installent en Irlande pour échapper au fisc. Mais Google n'est pas le seul en fait à vouloir échapper à la fiscalité et aux impôts, puisque d'autres géants du web américain, notamment comme Facebook ou Amazon, eux aussi ont recours à l'exonération fiscale en s'éloignant des États-Unis et de l'Europe.
Merci Hakim Kasmi, où l'on voit effectivement que l'Europe fiscale n'est pas encore tout à fait au point. La coalition internationale contre l'État islamique est en bonne voie pour éradiquer l'organisation en Irak et en Syrie. Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian confirme ce matin le recul de Daesh qui aurait perdu selon lui entre 30 et 40% de son territoire à la fois en Syrie et en Irak. Ils perdent de l'influence, ils perdent des pouvoirs, dit-il, ils perdent des ressources, ils perdent des moyens à l'heure où s'intensifient donc les préparatifs pour tenter de reprendre la ville de Mossoul. Une agence liée à l'État islamique annonçait hier la mort de l'un des commandants les plus en vue de l'État islamique, Omar al-Shishani, plus connu sous le titre d'Omar le Tchétchène, Nabil Amel.
Oui, l'homme reconnaissable à sa barbe rousse faisait office de ministre de la Défense de l'EI. C'est pourquoi les États-Unis avaient mis sa tête à prix pour 5 millions de dollars. Le Pentagone croyait d'ailleurs une première fois l'avoir tué en mars dernier lors d'un bombardement de la coalition au nord-est de la Syrie. Mais cette information n'a jamais pu être confirmée. Hier, c'est donc, vous le disiez, une agence proche du groupe État islamique qui annonçait sa mort dans la ville de Sharkat, en Irak. Il participait, 17 sources, à la bataille pour repousser la campagne militaire dans la ville de Mossoul. L'agence Hamak ne précise pas en revanche la date exacte de sa mort. Il ne donne pas de détails sur ses circonstances. De son vrai nom, Tarkan Batirashvili, celui qui se faisait appeler Omar le Tchétchène, était de nationalité géorgienne et était né en 1986 d'un père chrétien et d'une mère musulmane. Sa mort représente un nouveau coup dur pour l'EI qui a déjà perdu deux autres responsables importants. Abderrahmane Kadouli en mars dernier, l'homme qui gère les finances de l'organisation, donc les opérations militaires et les attentats à l'étranger. Et la mort aussi du Tunisien Abou El-Hidja, tué à Raqqa en mars dernier. Mais si l'EI perd du terrain, vous le disiez, en Syrie et en Irak, il continue régulièrement à perpétrer des attentats sanglants comme celui du 4 juillet dernier à Bagdad, qui a fait 300 morts.
Nabil Amel, merci. En France maintenant, après les charges du Premier ministre contre son ministre de l'économie, Manuel Valls accusait hier, on en parlait, Emmanuel Macron de céder aux sirènes du populisme, ce sont maintenant les ministres les plus proches de François Hollande qui passent à l'offensive. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, estime qu'il ne peut y avoir de ménage à trois à la tête de l'État. Nous n'avons pas besoin de polémique au gouvernement, assurait de son côté ce matin encore le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Antoine.
François Hollande va donc s'exprimer, entre autres, sur le sujet dans quelques minutes maintenant. Et la question se pose quand même de savoir comment un ministre peut résister politiquement dans cette équipe qui paraît généralement hostile à sa démarche.
Comment résister ? Eh bien, c'est assez simple. Il n'a rien à faire, tout simplement parce que son sort dépend uniquement du président de la République. Tous ses ministres ont beau s'agiter dans tous les sens. Manuel Valls est ructé en accusant Emmanuel Macron de céder aux sirènes du populisme et en déclarant qu'il est temps que ça s'arrête. Ou encore Jean-Yves Le Drian, vous l'avez dit, estimait qu'il ne peut pas y avoir de ménage à trois au sommet de l'État. Toute la question, la seule question, est de savoir où Emmanuel Macron est le plus utile au chef de l'État, ou plutôt, où est-ce qu'il est le moins gênant ? En tant que ministre au sein du gouvernement ou bien en dehors, à potentiellement faire campagne contre lui en vue de 2017. Objectivement, plusieurs éléments plaident en faveur d'un maintien du ministre de l'économie en son ministère. Déjà parce qu'il est jeune et populaire. Si François Hollande décidait de l'éjecter, il donnerait corps à l'idée que l'exécutif se recroqueville dans l'entre-soi d'une petite caste politique qui n'aime pas qu'on vienne bousculer ses habitudes. Ensuite, Macron, c'est la mouche du coche de François Hollande pour tenir en respect son réel potentiel concurrent pour 2017, le Premier ministre Manuel Valls. Enfin, le président peut difficilement se séparer du courant qu'incarne Emmanuel Macron, tout autant, voire plus aujourd'hui que Manuel Valls, celui d'une gauche sociale, libérale et réformiste. Il y a suffisamment de force centrifuge et la majorité sur laquelle s'appuie le chef de l'État est suffisamment étroite, il ne peut pas se payer le luxe de la réduire un peu plus encore. Reste quand même que les libéralités et les élucubrations d'Emmanuel Macron ont quelque peu phagocyté le 14 juillet de François Hollande et légèrement écorné son autorité. Le président peut donc difficilement se passer d'un recadrage en bonne et due forme, d'autant qu'il sera interrogé en détail sur la question, selon l'aveu même d'un de ses deux intervieweurs, David Pujadas. Mais ça ne devrait pas aller au-delà d'un rappel à l'ordre et au respect que Macron lui doit. Pour résumer, l'oiseau est en cage, il vaut mieux l'y laisser.
Stéphane, Robert, merci beaucoup. La météo, un temps généralement instable, qui va s'améliorer progressivement par l'ouest. Plus ensoleillé près de la Méditerranée, température cet après-midi de 17 à 29 degrés. Édition réalisée avec François-Charles Domergue. Le prochain journal est à 18h.